Donc pour commencer, on va faire un test au niveau des micros, justement. Je vais te demander de te présenter.
Ben, Gilles François, retraité, 66 ans.
Pas trop touché.
Je sors de l'éducation nationale. Dans ma famille, nous avons toujours eu des vignes. Mon père un petit peu, nous un petit peu plus. Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'histoire locale. Mais mes souvenirs des années 50-60, c'est pas pour moi de l'histoire locale, c'est de l'histoire personnelle. Donc on va aller fouiller un peu dans mes souvenirs.
Alors, tu es né où et quand ?
Je suis né au Rissay, le 12 février 45, tout près d'ici. Et je suis un riston un peu chauvin.
Et t'es né où ? À la maison ?
Je suis né à la maison... où mes parents étaient concierges, dans la famille Moutard, renommée par la ferronnerie, construction métallique, etc., où mon père a travaillé en tant que ferronnier. C'est une usine entre guillemets, on l'appelait ça l'atelier, qui a quand même compté jusqu'à 75 ouvriers. Il y a un passé assez important avec des constructions, les grandes rampes du palais, du Grand Palais de Paris, ont été faites au Rissay, à l'époque de Louis Maison, le Dôme des Invalides, beaucoup de restaurations, la place Stanislas Leczinski de Nancy, etc., etc. Donc ça fait une notoriété. Malheureusement, depuis 2-3 mois, cette usine est apparemment définitivement fermée. Elle a vécu ces dernières années avec Jean-Noël Moutard, ferronnier, avec un ouvrier. C'est un petit peu dommage.
Et donc, à l'époque, au Rissay, c'était une sage-femme qui accouchait. Comment ça se passait ?
C'était Madame Moutard, mère, dont le père était médecin à Paris, qui avait appris les gestes. Elle avait sûrement accouché pas mal de femmes au Rissay. Alors, il se trouvait que moi, j'ai été quand même aidé, enfin, ma mère a été aidée dans cet accouchement, parce que je suis né en février, venait de s'installer le docteur Lafleur, en janvier 45. Donc, il a mis au monde mon camarade de communion, Philippe Auguste, et moi-même 15 jours après. Alors l'anecdote de Philippe Auguste, sa maman qui accouchait de son troisième ou quatrième gamin, docteur en plaisantant, dit: alors vous avez choisi un prénom pour votre quatrième là? Oh, Madame Auguste, elle dit: bah non, je sais pas, faut que j'en parle à mon mari. Et pourquoi, dit le docteur, pourquoi vous ne l'appelleriez pas Philippe? Oh ben oui, pourquoi pas. Donc c'est devenu Philippe Auguste. Et toute sa vie, il est mort malheureusement, et toute sa vie on l'a appelé Bouvines, à cause de la bataille menée par Philippe Auguste, la bataille de Bouvines. Donc j'ai été quand même aidé, assisté par un médecin.
Et tu te situes où dans la fratrie ?
Ben, je suis le second d'eux, donc j'ai un frère aîné de 6 ans de plus, et lui était déjà né là. Donc dans la maison, deux concierges. Ma mère était à la fois concierge, femme de ménage, dans la famille Moutard.
Et t'as connu tes grands-parents ?
J'ai pas connu mes grands-parents, j'ai connu mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents paternels étaient à Belleneau-sur-Laigne. On en parlera beaucoup parce que c'est important pour moi. Mais mon père est on dirait aujourd'hui, un fils de vieux. Il avait 16 et 17 ans de moins que ses frères et sœurs, donc ses parents ont disparu plus tôt, je n'ai pas connu. Mes grands-parents maternels, famille nombreuse à Mar-sur-Seine, mon grand-père était charron, ma grand-mère est décédée à 42 ans, et mon grand-père très pas loin derrière. Par contre, j'ai connu mes arrière-grands-parents maternels, des deux frères, qui étaient des descendants belges, qui étaient venus, comme ça se faisait beaucoup dans les années fin du 19e, occuper des fermes dans cette région. Donc ils avaient occupé une ferme près de Molèm, où ils avaient vécu et ils avaient terminé leur jour dans la maison où j'ai essentiellement vécu, à Rissé-aux-Trives.
Et donc tu disais que tes parents, donc, au moment où tu es né, ils avaient quand même des vignes. Ils leur venaient d'où ?
Mes parents avaient des vignes qui venaient du côté de mon père. Mon grand-père était un personnage un petit peu atypique. Il avait été, avant de revenir sur Balneau, il avait été cocher de fiacre à Paris. Et son siège était surtout le boulevard Raspail où il habitait, où il avait son écurie. Et il a eu la chance de conduire un grand vétérinaire de Paris. Donc, en l'attendant, soit il l'assistait, il l'aidait pour soigner les animaux, comme ça qu'il a appris quand même des rudiments de vétérinaire, ou alors il attendait à l'échoppe d'un cordonnier, et c'est comme ça qu'il a appris le métier de cordonnier. Voilà, alors quand il s'est retrouvé à Balneau, je ne sais pas s'il a racheté ou s'il a monté lui-même, il a créé donc un bistrot, une épicerie, enfin on y faisait tout dans ce truc et on venait souvent le chercher pour une vache qui allait mettre un veau au monde. Enfin, et c'est là qu'il a, il a commencé à planter quelques vignes, hein, que mon père a gardées. Dans les années 60 plutôt, il en a vendu, je dirais, moi donné, un neveu qui s'installait, Maison Bonnet. Hein. Bon, si on avait su, si on avait connu l'essor qu'a connu la vigne, peut-être, mais moi j'étais trop jeune pour dire à mon père, bah non, garde ça pour nous plus tard. À l'époque, faut bien savoir que dans les années 50-60, mon père, à l'usine, Moutard, disait à ses collègues, c'était récent, c'était récurrent, j'ai des terres à te donner. J'en ai marre de payer des impôts fonciers. Si je pouvais m'en débarrasser. Des terres, appellation. Et en face de lui, son collègue disait, bah, écoute, j'en ai autant à te proposer. J'ai des terres, appellation, dont je voudrais me débarrasser. Je te les donne. Donc, aucun marché ne se faisait. Donc, on les a retrouvés au moment où l'appellation a commencé à prendre de la valeur, à devenir intéressante. Mais Bonnet s'est situé dans les années 60, au moment où ça ne valait rien. Ça valait en gros 1 000 francs l'hectare. Et Bonnet, pour être sûr, pour que le vigneron, le propriétaire s'engage, il lui en proposait 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. On disait, Bonnet, il est fou dingue. Mais il est fou dingue, il achète ces terres-là très très chères alors que ça ne vaut rien. Mais c'est quand même constitué, l'avenir nous le dira, dans les années 90, hein, un vignoble de près de 50 hectares. Et lui, à l'époque, dans les années 50-60, il avait comme expérience l'expérience de son père qui avait fait de la culture de façon extensive. C'est-à-dire, pas 25 hectares, c'était lui, son truc, c'était 800, 1000 hectares. Il s'est dit, bon, la vigne ne rapporte pas grand-chose, mais si on en fait une culture expansive, peut-être que on s'en sortira.
Et tu es allé à l'école où, alors?
Bon, je suis allé à l'école d'Hérissé jusqu'à... J'aurais pu passer mon certificat d'études au lycée, mais mon oncle à Balneau, toujours mon oncle à Balneau, qui recevait pour comme client, recevait des inspecteurs d'académie, et dans la discussion, ma mère avait entendu dire qu'il était plus nécessaire d'aller jusqu'au certificat d'études pour ensuite aller en cinquième dans un collège. Un cours complémentaire, d'ailleurs, à l'époque, il suffisait de passer un concours pour rentrer en sixième. Donc, on tentait notre chance plutôt dès 12 ans pas 11 ans comme maintenant ou 10 ans, dès 12 ans, on tentait un concours pour aller en 6e. Pour l'anecdote, l'instituteur de fin d'études, etc., n'était pas d'accord tout à fait avec ma mère, mes parents, parce que ma mère était femme de ménage aussi chez des instits que mon instit n'aimait pas, donc c'est moi qui en ai pâti. Donc lui n'a pas voulu me présenter. Heureusement, ma mère m'a présenté en candidat libre et j'ai été reçu. Donc j'ai donc intégré après le collège de Mar-sur-Seine, le cours complémentaire.
Donc il y a une volonté de promotion chez tes parents ?
Il y a toujours une volonté de promotion de ma mère, même pour mon frère. Ma mère, dans son fort intérieur, aurait voulu être instit, mais ayant perdu sa mère trop tôt, elle s'est retrouvée boniche à l'âge de 13 ans, hein, chez des bourgeois à Châtillon. Et son rêve, c'était que... Ben, on a aidé, mon frère aussi a été momentanément instituteur, et on a un petit peu réalisé son rêve. Si ça n'avait pas été ça, que serions-nous devenus ? Eh bien, en gros, ça se serait passé pour la plupart de mes conscrits, on dira, qui ont le même âge que moi, c'est-à-dire qu'ils sont restés au pays, ils sont allés travailler à l'usine Moutard, ils ont bricolé un peu, serrurier, construction de métal, tout ce qui tourne autour de la ferraille, et puis au moment donné, opportun, ils étaient sur place pour récupérer une terre à vigne, une vigne. Et aujourd'hui, mes conscrits ont bien sûr cédé leur exploitation, mais bon, ils ont terminé avec 15 hectares de vigne. Alors que nous, on est partis, hein, on est partis après l'école normale, on est devenu un site, on a fait autre chose, mais bon, on n'a pas pu se lancer à fond comme eux, quoi. Mais ça a donné une autre ouverture à ce qu'on a pu faire. Donc,
Et toi, tu savais ce que tu voulais faire en allant justement en 6e, etc. Ou tu savais que c'était pour faire ça ou tu avais d'autres idées ?
À vrai dire, je n'avais pas vraiment d'autres idées parce que déjà la volonté de mes parents, bon, jusqu'à la 6e, 3e, à la limite, je dirais que c'est un peu normal. J'ai tenu jusqu'à la 3e. C'était pas le cas de tous parce que dès qu'ils ont eu l'âge de passer le certificat d'études fin de 5e, le grand truc c'était retour au bercail, aller en usine ou bricoler et puis gagner 4 sous, quoi. C'est là que mes parents ont été un peu plus, surtout ma mère, persévérants pour nous. Non, on décroche pas. Et alors, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau parce que j'avais la possibilité, avec l'école normale, d'aller jusqu'au bac à moindre coût, parce que l'école normale était quand même un établissement généreux. Et puis, à l'époque, c'était des valeurs importantes, être instituteur dans un village. Je peux dire que les choses ont changé, au Rissé en tout cas, quand les vignerons, dans les années 70, sont passés du statut de pauvre à un statut de riche. Les valeurs, les repères, n'étaient plus les mêmes. Enfin bon. Voilà, donc moi, je n'avais pas d'idée bien précise quant à mon avenir. J'étais très content qu'on veuille pour moi faire autre chose et mieux que mes parents. Parce que je voyais bien que aller aux établissements maison, ce n'était pas non plus la panacée. Avoir quelques vignes à l'époque, ça aidait un petit peu pour vivre, mais c'était rien. La preuve, c'est qu'en 1947, une année exceptionnelle, mon père a dit « Je m'en fous, je vais peut-être crever un peu plus, mais je ferai le sacrifice, je ne donnerai en raisin à pressurer que le minimum qu'il faut pour récupérer du sulfate. » Il y avait donnant-donnant. Il n'a fait que le minimum, si bien qu'il a gardé toute sa récolte, petite certes, mais toute sa récolte en 47. Il y a encore deux mois, j'ai bu avec mes enfants la dernière bouteille de 47. Et on en a bu assez régulièrement depuis très longtemps. Voilà. On avait une. Je pense que dans ces exemples-là, mon père nous a donné certains exemples de valeurs. Il ne fallait pas se précipité sur la valeur du jour. Mais bon, là, garder cette récolte, c'était quand même très, très important. Je sais que depuis des années, dans les caves au Rissé, il n'y a plus du tout de ce genre de vin. Dans la cave de mes parents, il y avait encore, on a déménagé, des 28, des 34, des 47.
Et le goût des études est resté? Le goût des études, pour les études, tu l'as entretenu, non?
Alors, au-delà du bac? Alors, au-delà du bac, bon, j'étais un potache. J'étais un vrai potache, hein, c'est-à-dire que j'en ai pas glandé beaucoup, d'autant que on avait la chance à l'école normale de pouvoir faire du sport de façon intensive. Donc, je m'en suis donné à fond, en athlétisme pas mal, dans les lancers, et surtout dans le handball avec le PL. Et j'ai eu cette chance de jouer en championnat de France. Et à l'époque, il y avait deux poules. Il y avait la poule du Nord, la poule du Sud. Et nous, dans la poule du Nord, on allait jouer de cherche les noms précis, à côté de Strasbourg, on allait jouer à Lille, et on allait jouer, bien sûr, autour de la banlieue parisienne, et on allait aussi jusqu'au Havre. Donc on a, pour l'époque, on a relativement beaucoup voyagé. J'ai été pas trop mauvais, j'ai été repéré, j'ai gagné un voyage de 3 semaines en Yougoslavie, bon, et puis j'ai eu la chance aussi avec, ça c'était en patronage laïque, c'était en dehors de l'école, mais à l'école normale on avait Monsieur Mathieu, je me souviens plus de son prénom, ça va me revenir, qui nous entraînait au handball, et on avait une superbe équipe de handball. On est allé en championnat de France, enfin on a eu quelques honneurs de genre. Donc les études étaient un petit peu secondaires, mais bon an mal an, on avait de bons profs. C'est bien qu'on a eu le bac quand même, sans les honneurs, mais on l'a eu. Et puis, ben voilà, en tant que normalien, on a pris en charge une classe. Et puis, moi, on m'a mis en classe de perfectionnement. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un peu à mieux faire pour ses enfants, en tout cas. Moi, il fallait que je sois un peu meilleur. Donc, j'ai fait des formations à Fontainebleau pour être titulaire. Alors, je suis devenu rééducateur en psychopédagogie. Donc, après, j'ai un peu quitté l'école normale puisque j'étais détaché dans le privé au CMPP rue de la Paix à 3, centre médico-psychopédagogique, pour y attendre ma retraite. Bon, parallèlement, j'ai aussi en tant que psychologue, j'étais à Mont-Saulnier-Vaulx, à l'IME, à raison d'une journée par semaine. C'est un peu aussi comme ça que je les ai fait venir en vendange. Puis petit à petit, l'idée est devenue de plus en plus forte. Et si on faisait un CAT, Centre d'aide par le travail, maintenant qui s'appelle ESAT, au Rissé, ils iraient aux vignes. Il y a des gestes simples à faire, pas le taillage. Et puis, il ferait l'entretien de maison, le gazon. Il pourrait aussi repeindre des grilles, voilà. Et ça fait donc une vingtaine d'années que le CAT est installé au Rissé. Il est très bien, il est reconnu, apprécié, aimé. Et j'ai réussi aussi à ce qu'ils aient, je crois, une trentaine d'arts de vigne, ce qui améliore l'ordinaire. Voilà, ce sont mes études. Donc j'ai repris des études personnelles pour aller en fac et faire un équivalent de DESS de psycho. Mais j'y allais donc en plus de mon travail. C'était le jeudi à l'époque, je montais régulièrement le jeudi sur Paris.
Et tu as toujours habité ici, au Rissé ?
J'ai toujours habité au Rissé, oui. Momentanément, on a encore un petit appartement à Troyes, à l'époque où les enfants étaient en âge d'aller au lycée. On a eu cet appartement, puis on y habitait, ma femme y est encore, parce qu'elle continue à travailler sur Sainte-Savine. Mais on a toujours eu notre maison aussi. Ouais.
Ça, c'est important.
C'est très important d'être là où on est né, où on y a encore des activités, des relations. Je ne suis pas à dire pour mes enfants qui ne sont plus d'ailleurs, je n'ai pas à leur imposer que c'est la maison familiale, il faut qu'elle reste dans le. Non, ils feront bien comme ils voudront. Eux, ils ont un autre parcours qui fait qu'ils seront peut-être moins intéressés, attachés, ou en tout cas différemment, à la maison d'Hérissée. À dire vrai, si on s'est ancré au Rissé, c'est parce qu'il y avait la vigne. Et que la vigne nous tient toujours. Voilà. Ceci dit, je suis chauvin, donc je n'ai pas expliqué longtemps que le paysage au Rissé, il est quand même assez exceptionnel. Ce matin, on a fait une promenade à pied avec ma femme, et encore, on est encore surpris à 66 balais de paysages qu'on connaît depuis toujours, de dire « Ah, en automne, quand même, c'est très très chouette. Hein. » Et on ne s'en lasse pas. Moi, quand je vais, bon, j'y vais de plus en plus à pied. Mais si j'ai une course à faire au Rissé et que je dois prendre ma voiture, voire mon 4x4, c'est pas toujours très bien vu, mais bon, il n'est pas rare que je fasse un détour et que je grimpe un chemin de vigne, une contrée, et puis hop, on a de quoi faire. On a 48 petites vallées qui desservent nos vignes, alors on a de quoi faire.
Pour en revenir un peu à la transition entre les vignes qu'avaient tes parents et toi, ce que tu as pu en faire, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, ça s'est pas fait naturellement, j'imagine?
Ça s'est passé très naturellement, et nos parents en 73, avec mon frère, ils ont eu la générosité de nous donner les vignes. Ils auraient pu dire, ouais, attendez, nous, notre vie n'est pas terminée, d'autant qu'on a des petites retraites, ils nous ont donné les vignes. Donc on a très très tôt pu en profiter. Des vignes, des terres à vignes. Donc on a très vite essayé d'en planter le maximum. Parce qu'il y a des terres quand même autour. Hein. Et malheureusement, on n'a pas pu mener ça rondement parce que mon frère et moi, nous avions une autre profession. Et les vignerons, pour se préserver, disaient « la vigne aux vignerons hein. ». Donc, tous ceux qui étaient double actifs, qui avaient une autre profession par ailleurs, eh ben, ils pensaient qu'en dernier, pour se voir allouer des droits de plantation. Ben oui. Et puis, donc, on n'a pas eu toujours les droits de plantation qu'on aurait aimé. Mais ça, on jouait le jeu parce qu'on savait que c'était aussi un contrat qui était passé entre la profession et le négoce. Hein. Il y avait un juste équilibre entre les deux. Donc on était d'accord sur le principe. Malheureusement, on en faisait les frais, mais c'était dans l'esprit général de la politique de la Champagne. Hein. Puis en plus, il y a eu des années aussi où interdiction absolue de tout le monde de planter parce que le marché n'était pas porteur, n'était pas intéressant, donc il fallait stopper, ne pas se prendre les pieds dans le tapis en forçant les choses, en voulant planter trop, quoi. Hein. Bon, alors petit à petit, ma femme en 86 s'est arrêtée de travailler. Je lui ai donc demandé de reprendre les vignes. Ah, non, mais madame, vous n'êtes pas de profession viticole. Elle est kiné, hein, kiné et ostéopathe. Et donc on l'a obligée à faire une année à Saint-Pons, une année complète, hein, 5 jours sur 7. Pour faire un BEPA. Et ma fille, à 5-6 ans, quand elle a voulu reprendre une partie des vignes, elle est aussi kiné ostéopathe. Ah non, non, mademoiselle, non, non, vous devez faire un passage obligé par un BEPA. Ce qu'elle a fait, ensuite, ce qui lui a permis de pouvoir exploiter. Alors, je ne sais pas si tout le monde est logé à la même enseigne, parce que je vois autour de moi des gens qui n'ont jamais fait cette fameuse année de BEPA, et qui, malgré tout, ont pu reprendre l'exploitation des parents. Bon. Alors, les vignes de mon père, elles avaient déjà un certain âge, quoi. Donc, les premières choses qu'on a faites avec mon frère, c'est qu'on a commencé un petit peu à renouveler. Hein.
Quoi?
Où il y avait une trentaine d'arts à se partager en deux. Alors, plutôt que de se partager, on a créé un GFA, Groupement Foncier Agricole. Et puis, on a commencé à replanter. Il y avait la possibilité, en tout, d'avoir 1,20 hectare de vignes. quand on a eu 7 hectares de vin de vigne, on a pensé se séparer, chacun prenait ses billes, chacun son centard, ce qui fut dit fut fait. Et puis après, ben, chacun a fait ce qu'il a voulu. Mon frère a continué sa vigne. Nous, on essayait d'en avoir un petit peu plus, mais plus le temps passait, plus le prix à l'hectare de vigne, de terre à vigne augmentait. Donc on a eu quand même pas mal de mal. Donc on est passé de 60 hectares à 2 hectares 30 en propre. Nous sommes propriétaires. Il y a un peu plus d'un hectare ou à peine un hectare en location. Donc, on n'a pas pu donner l'essor comme on aurait pu donner si on avait été sur place et si on avait démarré dans les années 70-73. Mais bon.
Et au départ, justement, par rapport à toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils avaient planté comme vin, comme raisin ?
Ben, ils avaient planté du pinot noir. C'était déjà du pinot noir. Il n'y avait pas de gamay à transformer, à changer. Parce que quand on a eu l'appellation Champagne en 1927, c'était à la condition qu'on, petit à petit, on supprime le gamay. Il faut savoir que le gamay, déjà au XIVe siècle, Philippe le Hardy disait qu'il fallait l'arracher parce qu'il faisait un vin mauvais, déloyal. Et ça a été repris à peine un siècle plus tard. Au XVe siècle, on disait « le gamay, il faut l'arracher ». Et nous, on avait encore des gamays. On en a eu jusqu'en les années 60, parce que les personnes âgées ont fait valoir que « attendez, on ne va pas à notre âge, à 75 balais, à arracher des vignes pour mettre en pinot, alors que nous, on est au bout du rouleau. » Donc, on leur a permis d'aller jusqu'au bout. Alors bon, donc on a replanté en pinot noir, essentiellement en porte-greffe SO4. Il se trouve que maintenant, on le bannit plutôt qu'autre chose. Donc voilà quoi, en SO4, c'est un type de plan. Maintenant, c'est pas, on fait mieux. On fait des clones, hein. Les gens de la vie font des clones. Et puis petit à petit, ben voilà quoi. Mais bon, c'est pas non plus un exemple d'exploitation bien menée, bien. Hein, bon.
Et tu considérais que ton père et tes parents étaient vignerons ou pas, toi ?
Oh non, on les considérait pas comme vignerons. Hein. Moi aussi, je ne suis pas considéré comme vigneron. Parce que d'une part, statutairement, c'est ma femme qui est en nom de la société, hein, de le ARL, et donc moi je suis rien. Et il se trouve que je fais partie d'une association très importante, APVC, Association de Promotion du Vignoble Champenois, et juste avant la route du Champagne 2008, OEC, j'ai été appelé pour y rentrer. J'étais le plus vieux de la jeune équipe, là, une équipe dynamique. Et j'ai appris quelques réunions après qu'ils avaient un problème avec moi. C'est que théoriquement, on ne pouvait rentrer dans une APVC que des vignons. Que des vignons. Il a fallu changer les statuts pour que je puisse y rentrer. Alors, j'ai un peu souri amèrement parce que j'ai demandé au petit jeune qui était autour de la table lors d'une réunion APVC, j'ai dit, cette année, t'as passé la raclotte combien de fois dans ta vigne ? Oh, dis-moi, je ne raclote plus, je désherbe. Non. Ben, j'écoute, moi, je suis un vieux con, peut-être pas vigneron, mais j'ai passé la raclotte deux fois dans mes vignes. Mais bon, statutairement, je n'étais pas vigneron. Je suis toujours à la PVC, très heureux d'y être parce qu'il y a eu une très très bonne équipe. On a organisé la route du Champagne en 2008. C'était quand même quelque chose d'important, de conséquent. Et on a fait quand même pas loin de 30 000 entrées. Et là, depuis jeudi soir, on préparerait la route du Champagne 2015. J'y serais peut-être pas, mais bon, dans l'esprit, j'y serais.
Mais toi, tu te considères comme vigneron ou pas ?
Je me suis toujours senti marginal. D'une part, quand j'ai commencé à vivre la semaine à Troyes, on est déjà un peu moins riston. Du fait que je travaille par ailleurs, qui plus est un métier un peu bizarroïde comme étant rééducateur en psychopédagogie, voire psychologue à Monceau, c'est des mots qui font des fois un peu peur autour. Et donc, j'étais quand même un petit peu. Je me suis marginalisé. Et j'avais un bon copain psychiatre qui disait: Ah ben moi, je connais. Personne ne vous connaissait un gars comme lui. C'est pas possible. Il est vigneron psychologue. Comme si les deux entités ne pouvaient pas cohabiter. Alors moi, je veux dire que pendant ma formation de psycho, quand j'allais régulièrement à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris, et que je voyais des gens qui étaient pas mal atteints, et quand je me disais mais que ces gens-là avaient basculé très rapidement, je me suis dit ça pourrait très bien nous arriver, c'est assez facile. Et j'étais bien content de retrouver le côté matérialité de la vigne, le côté agricole, faire, se retourner pour voir ce qu'on a fait. Enfin bon, on était dans le concret. Et ça équilibre bien les choses.
Et malgré ton double emploi, tu as pu voir quand même l'évolution dans les années 60, fin 60, 70.
Ça, c'est l'évolution. Quand je refais les 50 dernières années, j'ai l'impression qu'il s'est passé des siècles. Parce qu'en 55, j'avais 10 ans, il n'y avait pas de tracteur enjambeur. C'était un autre monde. En 55, au lycée, il y avait 100 hectares de vignes. Aujourd'hui, 866. En 1850, il y avait 1550 hectares de vignes. Ça veut dire que quand j'avais 10 ans, la plupart des collines où je pouvais jeter mon regard, c'était des résineux tout chétifs qui avaient poussé parce que, après le phylloxéra de la fin du 19e siècle, on avait abandonné les vignes parce que c'était la misère, parce que c'était onéreux de les replanter et que c'était le début d'une ère qui s'annonçait meilleure, le début du siècle avec la SNCF, les petites entreprises de bonneterie, d'autres petites entreprises très prometteuses sur trois, si bien que le vigneron a dit: Bon, ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, je m'exode, je pars en ville pour essayer de trouver des jours heureux. Donc on a abandonné quantité. Et 100 hectares au de vigne, ben c'était des petites taches de vigne à droite, à gauche. Il y en avait très peu. Puis heureusement, ben ça s'est resté longtemps comme ça. Hein. Ce n'est que dans les années 70 où, du jour au lendemain, le marché du champagne a été porteur, et en 3 ans de temps, de pauvres, les vignerons sont devenus riches. À cette époque-là, j'étais en fac à Paris, je faisais une licence de psycho, j'avais une UV de socio, et j'ai donc dû expliquer très rapidement la transformation. Le prof de socio ne me croyait pas. Quelques temps après, il me dit: J'ai dû vérifier vos dires. Et il semblerait que vous aviez raison, qu'en l'espace de 2-3 ans, les gens, les vignerons étaient devenus fous. Parce que quand vous n'avez jamais eu d'argent, puis qu'un beau jour vous en avez beaucoup, on fait beaucoup de conneries. On fait un peu du n'importe quoi. Puis alors la jalousie s'installe. Oula! Il a changé de voiture. Il a une belle voiture. Et on changeait de bagnole. Oula! Il a changé son carrelage. Et il paraît qu'à Mussy, on fait des carrelages qui ressemblent au marbre. Et on cassait tout. Et bon, les maisons étaient améliorées. Elles en avaient besoin. Hein. Il y avait des chiottes au fond de la cour. Il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas tout ça. Ça, de ce point de vue-là. Mais après ça, il y a eu des excès quand même. Hein. Et les vendeurs d'automobiles n'ont jamais autant gagné de pognon que dans ces années-là. Hein. Moi, j'avais sorti une boutade en 76 à FR3 qui nous interviewait en pleine vendange avec M. Bonnet en 76. La question, c'était: quelle différence y a-t-il entre un vigneron champenois riche et un vigneron champenois pauvre? Alors, je dis tout de suite, ça a été coupé. Je ne sais pas si c'est là que tu oseras le couper. La réponse, c'était: le vigneron champenois pauvre lave sa Mercedes tout seul. Faut dire qu'en 76, on avait connu la sécheresse et bon, les jeunes plantations avaient souffert, mais une vigne connaît difficilement la sécheresse. Elle est heureuse quand il fait sec, parce qu'elle va chercher loin, dans le profond du sol. Alors il se trouvait qu'au Crédit Agricole, on avait des intérêts à taux très, très bonifiés. On y est tous allés, et grâce à ça, pour la plupart, on a pu améliorer l'ordinaire, c'est-à-dire acheter la fameuse Mercedes, qui manquait à la panoplie. En 69, on crevait de misère. En 76, on pouvait déjà s'acheter la Mercedes.
Tu parlais des valeurs tout à l'heure.
Bah, des valeurs, oui. Ne serait-ce que par l'argent, dans un village, on peut faire une hiérarchie. Bon, pas que par l'argent, mais par la moralité, par le niveau d'études. Hein. Il y avait le curé, l'instituteur. Ça, c'est un vieux clivage, une vieille image du fin 19e siècle. Mais il y avait, depuis, on avait quand même aussi un médecin, un pharmacien, un notaire. Au niveau possibilité d'argent, les Villon pouvaient largement rivaliser avec les uns les autres. Hein. Donc, il y a des petits esprits qui ont voulu faire comprendre aux médecins ou aux pharmaciens que, attendez, eux aussi, grâce à leur capacité, leur intellect, ils avaient réussi comme eux. C'était la conjoncture, c'était le marché qui avait fait qu'on avait réussi. Mais ce n'était pas les années d'études, les examens réussis qui faisaient qu'on avait réussi. Hein. Alors, bon, il y a aussi le notaire qui, là, est arrivé. Il y a eu de nombreuses transactions à ce moment-là, parce que, bon, oui. Oh là, tout le monde était en quête de racheter des terres. Donc, il y a eu énormément d'argent, ce qui fait que le notaire d'RIC a été, à un moment donné, la plus grosse étude de toute la France confondue. La plus grosse étude de toute la France confondue. Celle sur Ousse, je ne sais pas si on te l'a dit, mais dans ces années-là, dans les années début 70, celle sur Ousse a été l'un des pays, les habitants de celle ont été... par habitant, bien sûr, ont été le premier pays de France à payer un impôt sur le revenu. Parce que celle, c'était aussi une autre histoire. Ils avaient des villes pas très, très bien exposées, ils ont dû aller acheter ailleurs des terres à vignes pour améliorer ce que celle pouvait produire. Donc ça donnait tout de suite des exploitations très importantes.
Comme au Rissé, par exemple ?
Non, les Rissé, non.
Ils ont acheté au Rissé,
oui, on en connaît, qui continuent à venir dans leurs terres ici. Ils sont moins venus au Rissé, ils sont plutôt remontés. La vallée de l'Ours, plutôt près l'Andreville et Soie, à ce moment-là. Mais on a eu le phénomène aussi un petit peu au Rissé. Hein.
Et le village, comment était le village ou la commune des Rissé avant ? C'est-à-dire quand toi tu l'as connu, quand tu étais gamin, tu avais 10, 15 ans ?
Alors, le village d'Hérissé, il a assez particulier, c'est que c'est un immense village. Il est très grand. Il est très grand essentiellement de petites maisons. Parce que en 1850, il y avait le double de vignes qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, 66 hectares, on est le plus grand terroir de Champagne. En 1850, il y avait déjà 1550 hectares. C'est-à-dire qu'ici, là où nous sommes, il y avait de la vigne. La vigne descendait jusqu'au village. Et pour faire ces 1550 hectares de vigne, alors qu'il n'y avait pas de tracteur, bien sûr, il fallait plein de monde, plein de petits manouvriers. D'où une quantité de petites maisons, j'en ai une là, ici au Tribe, les unes à côté des autres, sans cour, sans rien. Moi, j'ai une maison qui fait 42 mètres carrés au sol, deux niveaux, j'en ai fait un troisième avec le grenier, 50 mètres de là, j'ai ce qu'on appelle la vinée, où on entreposait le vin, 40-45 mètres carrés. Hein. Ça remonte avant la révolution de 1789. Il fallait, au Rissé, avoir un lieu en Champagne et un lieu en Bourgogne, parce que nous étions séparés de façon très entremêlée entre la Champagne et la Bourgogne. Selon les impôts sur le vin, où les gens ont déplacé le pinard d'une maison à l'autre, où les gens, pour éviter de payer le moins d'impôts. Donc on retrouve encore ça. Donc au Rissé, un village avec énormément, énormément, énormément de petites maisons, des très belles demeures qui sont apparues dans les années 1875. C'est l'apogée de la vigne en France, avec 1 450 000 hectares de vigne. 1875, 1 450 000 hectares de vigne. Aujourd'hui, moins de 800 000. Au Rissé, dans ses fins 19e siècle, il y avait 35 négociants, des grosses maisons de vin. Donc, j'ai connu un pays, au Rissé, qui était morne, qui était vide. Heureusement, il y avait encore des habitudes de famille qui avaient quitté les Rissés pour les raisons que j'ai dites, hein, après le phylloxéra, mais qui continuaient quand même de Paris ou de Troyes de revenir sur le pays. Ils avaient gardé la petite maison. Donc l'été, ça s'animait. Maintenant, non, on va à la mer, on va à la montagne, mais on vient pas au Rissé. On va pas venir s'emmerder au Rissé. Donc à cette époque-là, ça revivait un peu l'été. Mais sinon, c'était très, 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 très calme. Il y avait au Rissé une grosse colonie de vacances animée par le docteur Lafleur qui m'avait mis au monde. Donc ça animait aussi les rues des Rissés. Sinon, c'était un village assez... il y avait quoi? Il y avait 15 500, 1600 habitants. On a connu en 1850, on a connu 4000 habitants ici. Hein. 4000 habitants. C'est conséquent. Aujourd'hui, 1350...
Et donc le village était encore bien entretenu dans les années 55-60.
Oh non, il n'était pas bien entretenu. Enfin, je veux dire, la municipalité devait sûrement faire ce qu'elle pouvait faire, mais les maisons avaient du mal à s'entretenir elles-mêmes. Il n'y a qu'à voir, quand on sort de l'appellation Champagne, je ne citerai pas de pays, mais on n'est pas loin d'ici, on sort de l'appellation Champagne, on s'en rend compte tout de suite. Hein. Les façades ne sont parfaites, parce que si on ne vit que de l'agriculture, on en vit chichement. Hein. Alors que c'est vrai que dans le milieu viticole, on a plus de facilité.
Et toi, enfant ou adolescent, tu as entendu parler des difficultés du début du siècle, du phylloxéra, des révoltes, etc.
Ou pas ? Ouais, ben on en entendait parler, mais sans geindre trop. C'est un petit peu le lot de toutes les familles, d'une part, et puis c'était les aléas de la vie, hein, c'était comme ça. Je pense que même aujourd'hui, pour l'avoir encore entendu il y a peu de temps, l'esprit du paysan en général, même voire viticulteur, il a le don de se plaindre souvent, que c'est jamais comme il le faudrait, quoi. Donc c'est un peu dans l'état d'esprit, sauf que les bases sont un peu différentes aujourd'hui. On ne se plaint pas quand même pour la même chose. Que le prix de la Mercedes a augmenté, mais non, là c'était sur des choses un peu plus vitales. Mais si, on le voyait bien, on n'avait pas à le dire. On le voyait bien. Quand j'avais besoin d'une paire de godasses, parce que mes pieds avaient grandi ou que les autres étaient percés, fallait que j'attende des fois 15 jours. Alors qu'aujourd'hui, c'est impensable. Enfin bon, ça a vraiment changé. Moi, sur 50 ans de temps, tu te rends compte qu'on a quand même connu tout ça. Et ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, on n'enseigne pas un petit peu aux jeunes vignerons, la jeune génération là, qui rentre 25 ans, qui rentre en activité, qui a connu le papa qui, lui, a connu l'aisance, hein. Grand-père, non, il se souvient un peu. Ces gens-là doivent savoir d'où ils viennent pour savoir où ils vont. Hein? C'est avec les ombres du passé qu'on éclaire le chemin à venir. Hein? Ça, j'étais un petit peu désolé d'entendre dire. Mais vous, les vieux, vous racontez des conneries. Évoquez la révolte des vignons de 1911, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Ils n'étaient pas miséreux.
Ça, tu l'as entendu.
Ça, j'ai entendu.
Par des jeunes qui rentrent dans le métier.
Oui. Bon, tiens, samedi prochain, aussi, va se jouer la pièce de théâtre, le cahier d'Adèle. C'est la révolte des vignerons. Hein. Ça a été fait pour commémorer, pour rappeler tout ça. Et c'est très peu suivi par la jeune génération. Hein. Alors que ça me paraît important. d'un point de vue pédagogique. De... Moi, j'avais écrit une pièce, et puis c'est M. de Mangeais qui m'a repris l'idée. Bon, il m'aurait prévenu, je l'aurais peut-être aidé, il ne m'a pas prévenu, puis on m'a dit, oh, la pièce, elle est écrite. C'est pas grave. Elle a au moins le mérite d'exister. Tu veux couper, là ?